Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïda Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Élise Le, réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, pour une spéciale littérature jeunesse, sur une suggestion de Louise Touré, qui a donc accepté d'y participer. Elle est là.
Bonsoir.
Tout comme notre estimée consoeur et collègue Marie Richeux, que vous aurez donc deux fois la chance d'entendre en cette fin de journée.
Éteignez la radio.
Non, laissez quand même un petit peu allumer. Mais quand même, Joseph Gosse est là, lui aussi, qui complète le plateau critique de cette dispute, ce qui nous fait 8 enfants. À nous quatre, on ne vous donnera pas la répartition. À notre sommaire, le tracas de Blaise, de Raphaël Frié et Julien Martinière à l'atelier du Poisson Soluble. Il va pleuvoir d'Anne Herbots aux éditions Casterman. Maître Chat de Blex Bolex chez Albin Michel Jeunesse. Et puis un coup de cœur de Louise Touré pour À travers, de Tom Ogomat aux éditions Thierry Magnier. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des invitations pour l'exposition Transmission Transgression. C'est à voir au musée Bourdelle à Paris jusqu'au 3 février. Dire quelques mots, quand même, en préambule de cette dispute sur la littérature jeunesse. Louise Touré, après plusieurs années avec l'émission Rue des Écoles, il y a désormais Être et Savoir le dimanche sur France Culture de 17h à 18h. Vous m'avez donc fait remarquer à juste titre que la littérature jeunesse ne trouve guère de place dans nos disputes, c'est moins qu'on puisse dire. On a fait d'ailleurs le même constat avec le Polar il y a 2 ou 3 semaines en se disant que il fallait y remédier. La difficulté avec la littérature jeunesse, on va peut-être d'abord l'expérimenter, mais c'est qu'elle couvre quand même un champ considérable, qu'elle se juge peut-être pas avec les mêmes outils critiques que la littérature, disons, adulte, pour simplifier. C'est pourtant économiquement un secteur extrêmement important de l'édition. Est-ce qu'il vous semble, de votre expérience, je parle professionnelle, que les parents manquent de prescripteurs pour la littérature jeunesse ?
Il y en a quand même, hein, dans la presse écrite, les libraires aussi, font un bon boulot, les bibliothèques. Et les écoles, puisque ces ouvrages peuvent circuler dans les classes. Après, il y a tellement de propositions qu'il est assez difficile de s'y retrouver. Et on a tous des sensibilités assez différentes. C'est des ouvrages qui sont pour les enfants, mais quand, voilà, c'est le cas des ouvrages aujourd'hui, on les lit beaucoup en tant qu'adulte. On les lit vraiment plusieurs fois. Donc, en fait, c'est important de trouver des livres qu'on va pouvoir relire avec beaucoup de plaisir, parce que on va vraiment les aimer longtemps. Et moi, je vois, il y a des livres comme ça que je connais pratiquement par cœur, parce que je les ai lus des dizaines de fois, et c'est un attachement très, très particulier. Est-ce qu'on manque de prescription ? Je sais pas, mais c'est vrai qu'en radio, il n'y en a pas énormément.
Bon, on remédie un peu ce soir. Marie Richeux, vous qui présentez animé chaque soir par Les Temps qui courent à 21h, est-ce que vous avez souvent reçu des auteurs jeunesse ?
Eh ben, bonne question. Je voudrais avec ces personnes-là, comme ça, dans mon souvenir immédiat, dans Par les temps qui courent, vous voulez dire?
Oui, ou dans Par les temps qui courent. Sinon, depuis vos 25 ans de radio,
ouais,
c'est ça.
On a reçu quelqu'un qui fait un peu quand même des choses pour la jeunesse, mais qui fait pas que ça. C'est Paul Cox, c'est un grand illustrateur, graphiste, fait des choses magnifiques.
Vous avez eu Tommy Ungerer une fois ou...
Non, il n'est pas venu.
Ah, je en l'ai fait, annoncé, mais il n'est pas venu, c'est ça?
Exactement. D'accord. On devait faire cette émission et en fait, il n'est pas venu.
Tommy Ungerer, on a eu la chance de l'entendre dans la rubrique de Sophie Bobert en fin d'émission, les leçons de choses, et c'était absolument génial. Elle a pu interviewer Claude Ponty aussi, et puis juste dimanche, on reçoit Jules, et puis Clémentine Beauvais, qui est une immense auteure jeunesse, alors là c'est plus pour les primaires, ados, et qui est aussi une théoricienne de la littérature jeunesse.
Mais alors, dans une émission, donc, on va dire culturelle, généraliste, comme dans Par les temps qui courent, c'est avec la place... comme dans la dispute, n'est pas très grande pour l'heure.
On le fait un petit peu, on l'a fait, mais très très rarement, en fait, proportionnellement, même en spectacle vivant, parce que finalement, c'est une question qui se pose aussi. Vous parliez du rapport, y compris de la marge économique que ça représente. Bon, il y a aussi énormément de spectacles vivants pour les enfants qui en parlent.
Ah, nous, souvent.
C'est vrai ?
Ouais. Oui.
Putain, j'écoute la dispute tous les soirs et j'entends très rarement le spectacle équivalent pour mes enfants.
Non, mais quand même, non, très régulièrement, beaucoup plus que ce qu'on parle de littérature jeunesse.
Évidemment, au regard de tous les artistes qu'on reçoit chaque soir, bien sûr que la proportion, elle est très 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 faible.
Bon, Joseph Gauss, alors que ce soit aux Un Rock avant-hier, à l'Obs hier, à Grazia aujourd'hui, bon, on parle pas de demain, quelle place pour la littérature jeunesse?
Une place qui a souvent été confondu avec la bande dessinée, puisque moi personnellement c'est, je rentre beaucoup par le dessin, et donc effectivement dans ces livres là il y a l'expérience du dessin qui est assez incroyable, et j'ai souvent vu des auteurs de bande dessinée, je pense là comme ça notamment à Flock qui a fait beaucoup de livres pour enfants qui sont vraiment très bien, et qui résonnent avec son œuvre à lui personnelle de bande dessinée. Par ailleurs, je vois bien l'intérêt récent pour cette littérature-là. Et par exemple, dans Grazia, il y a régulièrement des numéros dans lesquels toute la séquence culture, c'est-à-dire à peu près 8 pages, toutes ces pages-là sont consacrées entièrement à cette littérature-là. Et effectivement, ça tombe aussi souvent au moment où il y a des manifestations comme le salon
Surtout le salon de Montreuil. Une fois les journaux se remplissent de littérature jeunesse.
Mais en même temps, c'est exactement la même chose que pour la bande dessinée. C'est-à-dire qu'au moment d'Angoulême, les journaux se remplissent de bande dessinée. Ouais. Et là, il y a ça. Donc ça fait un peu des pôles qui se répondent. Je trouve ça pas mal. Mais en tout cas, pour moi personnellement, c'est vraiment, je le prends comme un lieu effectivement de partage avec mes enfants, mais aussi surtout un lieu d'expérimentation graphique.
Quand même un petit pouce Marie de Pleuchin, Geneviève Brisac.
Oui, c'est vrai, c'est pas rien non plus. Après ce tour de table inaugural, on va quand même ouvrir véritablement cette dispute avec justement la Pépite d'Or 2018. C'est pas moi qui le dis, mais c'est le prix qui est décerné au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. C'est le vrai nom du Salon de Montreuil, avec France Télévisions, ce prix. Il s'agit du livre intitulé Le Tracas de Blaise, de Raphaël Frier et Julien Martinière, à l'atelier du Poisson Soluble. Alors c'est un livre qui aurait peut-être pu s'appeler La Métamorphose, mais c'était déjà pris. Ce pauvre Blaise, pour avoir des tracas, ou un tracas. Louise Touré, vous commencez à nous parler de cet album.
Oui, cet album, donc Pépite d'Or, à partir de 5 ans. À 5 ans, c'est un âge intéressant parce qu'on commence à lire un peu tout seul, pas forcément à savoir lire, mais à lire tout seul, mais on se fait encore lire beaucoup d'histoires. C'est un âge auquel on se pose beaucoup de questions existentielles. À 5 ans, on commence à penser à la mort, on devient un petit peu comme ça inquiet, la plupart des enfants. Les parents sont là pour répondre à ces inquiétudes.
Pour les inquiéter davantage encore.
Ou les inquiéter davantage, parce que ce livre est un petit peu inquiétant, peut-être. Ça dépend comment on l'interprète, évidemment. Donc c'est une histoire de métamorphose. La métamorphose, évidemment, c'est un immense thème de la littérature, de la mythologie aussi. Alors les enfants d'aujourd'hui lisent énormément de mythologie. Du coup, j'ai consulté mon experte mythologie à la maison, ma fille. Elle disait, oui, c'est Callisto qui se transforme en ours. C'est une femme dans les mythologies parce que c'est une maîtresse de Zeus. Et donc, elle est condamnée. Mais la métamorphose, c'est souvent très malheureux dans les légendes. Et puis, dans la littérature, bon, on pense évidemment à Kafka. Mais là, dans cette histoire, on ne sait pas si elle est malheureuse ou pas. Et je pense qu'il y a vraiment matière à réflexion. Alors, une métamorphose, c'est quelque chose qui symbolise quelque part l'enfance. Un enfant, il change, on se métamorphose, en tout cas beaucoup plus que nous, on vieillit, mais passer de bébé à enfant, ça travaille. Après, on sait qu'on va être un adolescent. Et souvent, dans les récits pour enfants, dans la littérature jeunesse, on change, et puis on revient. C'est la trame normale.
C'est-à-dire, on revient.
Eh ben, on revient à son point de départ avec de l'expérience qu'on a acquise en route, des aventures à raconter. Là, c'est une métamorphose tout court. Donc, c'est un message qui est à la fois beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus ambigu, et moi, je trouve assez fort. C'est-à-dire, on change vraiment, comme dans la vie. Dans la vie, quand on change, on change. Et dans cette histoire, alors je ne sais pas si on raconte la.
Je me disais qu'exceptionnellement, quand même, dans cette émission-là, on a quand même le droit d'aller un peu loin dans le récit, parce que sinon, ça va être compliqué.
Tu peux dire le mot, tu peux dire divulgâcher.
Je vais le dire. Je vais dire divulgâcher plusieurs fois ce soir.
Alors, on va avoir ce personnage qui se transforme peu à peu en ours. Hein, d'abord les pattes, le pelage. Bon, il s'inquiète un petit peu, et puis qui va donc devenir un ours. Et puis, il devient tellement un ours qu'on ne sait pas s'il se souvient même d'avoir été un homme. Ça, ça raconte un petit peu, à mon sens, la vie. Alors, il y a quelque chose qui est rigolo, c'est l'ours, le thème de l'ours, qui est l'animal de l'enfance. On sait que, enfin, on le sait si on a lu Pastoureau, qui est historien, que l'ours était le roi des animaux, avant de se faire détrôner par le lion. Et puis, au début du XXe siècle, l'ours est devenu le nounours. Aux États-Unis, en Allemagne d'abord, et puis le nounours qu'on connaît. D'ailleurs, Blaise, il a un nounours dans l'album, il s'endort avec, il nous raconte un petit peu ses tracas, comme on a pu le faire quand on était enfant, si on avait un petit nounours. Et ce symbole de l'ours transformé en peluche, c'est la nature qui passe à la culture, qui devient inoffensive et qui fonctionne comme un rappel dans les chambres d'enfants. Mais la nature, elle est très, 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 très loin. Et ça, c'est le sujet du livre aussi.
Voilà l'introduction. Marie Richeux, pour suivre cette discussion autour du tracas de Blaise.
Eh ben moi, j'ai bien aimé que ce soit une métamorphose complète, en effet. Donc à la fin, voilà, il devient un ours, et puis même il va si on peut divulgâcher.
On peut divulgâcher.
Il rejoint la nature et il regarde la ville, et c'est un vieux souvenir. Il est même plus sûr que ça a appartenu à son existence préalable. Et en effet, dans ce que disait à l'instant Louise, c'est un changement qui est radical, avec un non-retour. Et en effet, moi, je trouve ça super chouette de lire ça aux enfants. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il se transforme. Qu'il s'étonne de sa propre métamorphose, et puis on n'a jamais de raison ni de question. Finalement, il se demande un peu pourquoi ça lui arrive, mais on n'a pas plus de psychologie que ça, et ça, je trouve ça aussi très, très chouette. Et puis après, j'ai aimé la grande précision du dessin qui est près de l'illustration, très proche aussi d'une forme de BD. Moi, j'ai pensé à Blake et Mortimer. J'ai aimé la préciosité aussi. C'est pour ça que je l'ai ouvert là, mais j'ai beaucoup aimé cette couverture, ce bleu des feuilles. Voilà, c'est. Et puis bon, l'ouverture vers la littérature. Moi, je trouve ça super les livres qui emmènent à lire d'autres livres. J'y reviendrai pour un autre, mais. Voilà, peut-être on peut lire ce livre-là et puis dire qu'il y en a d'autres qui racontent ces histoires et pourquoi pas, un peu plus tard, aller voir Ovid, aller voir Kafka. Et j'aime bien ça, qu'il y a des rebonds de livre en livre.
Premier regard de Joseph Gosse à présent sur le tracas de Blaise.
Je trouve intéressante la référence à Blake et Mortimer, puisque au premier abord, c'est quasiment de l'anti-Blake et Mortimer, parce que les cases dans Blake et Mortimer sont très très concentrées, très réduites, etc. Mais alors que là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des pleines pages, mais qui effectivement ressemblent à de la bande dessinée. C'est-à-dire il y a dans le dessin des bulles, des phylactères, ça parle, etc. Et moi, je l'ai lu avec une de mes filles qui s'arrêtait à chaque fois aux mots, mais vraiment au dialogue. Et ça c'était intéressant de ce point de vue-là. Juste pour revenir sur le dessin est effectivement très clair, c'est une ligne très claire, très précise, avec beaucoup de détails. Et moi, ce qui m'a surtout frappé au-delà du dessin, c'est la séquence, la façon dont l'histoire est racontée, avec effectivement des retours à chaque fois. On est dans la redite et dans l'évolution de cette métamorphose qui est effectivement est très bien menée et menée de façon très rapide. Et ce qui m'a surtout frappé, c'est l'inversion. Puisque ce personnage se transforme en animal, et on a le sentiment que c'est quelque chose qui devrait lui déplaire, sauf qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de psychologie, et qu'au fond, il trouve son bonheur dans cette transformation et dans cette échappée. Donc ça, c'est quelque chose qui, je trouve, dans le passage au lecteur, et en tout cas au jeune lecteur, est assez joliment fait, est assez intéressant à recevoir.
Ouais, il me semble même qu'il y a un effet de suspense. Enfin, moi, je l'ai vraiment lu comme ça, parce qu'il y a ce cycle. Donc, il y a le réveil. D'abord, les pieds en ours, puis ça monte. Mais le réveil, et puis il faut partir au travail. Et puis au travail, ça se passe chaque jour plus mal. Hein. Ouais. Plus il est ours, et moins ça se passe bien au travail. Donc, vers quelle catastrophe est-ce qu'on allait aller? Il y a quand même cet effet-là.
Le rapport au travail est très, très intéressant.
Ouais,
c'est vraiment le quotidien. Et vraiment, ce cadre du travail qui est mis en scène comme ça, on se demande est-ce que c'est l'enfant qui lit ce livre qui regarde son parent, ou est-ce que c'est le parent qui se regarde et qui se dit où est-ce que je suis, comment est-ce que je me transforme et qu'est-ce que je raconte à mon enfant. Il y a quelque chose comme ça qui joue beaucoup.
Louise Thoré.
D'autant plus que le dessin montre un univers assez daté, avec des téléphones à cadrans, oui, des voitures un petit peu anciennes. Alors, on ne sait pas trop à quel travail on peut faire référence. Concernant la métamorphose, on se demande, est-ce que la métamorphose s'est changée ou est-ce que c'est se révéler ? Qu'est-ce qu'on a trouvé de soi, finalement ? Bon, ça, c'est une explication un petit peu compliquée
un peu plus
pour
que
les enfants.
Ans, ça,
mais pour revenir au thème du travail, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et le thème de la ville. Parce que dans la littérature jeunesse, souvent, la nature est représentée comme un idéal. Un idéal dans lequel on serait beaucoup plus heureux. Et moi, ça me pose énormément de questions parce que on vit en ville et une majorité de Français et de gens dans le monde aujourd'hui vivent en ville, mais c'est particulièrement vrai dans les pays comme le nôtre. Et donc, on continue à raconter à nos enfants des histoires où la ville, c'est pas bien, on est malheureux.
Et la le campagne, travail, c'est bien.
Et le travail rendrait malheureux, même si là, c'est un travail relativement abstrait, parce que cet univers où ils sont avec des feuilles, plein de feuilles, des gros dossiers verts, c'est vraiment assez années 70-80. Bon, il fait pas vraiment référence au boulot de maintenant. Et donc, ça, peut-être, je me suis dit, ça s'adresse vraiment très directement aux parents, parce qu'on sait que ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, le bore-out et tout, est-ce que ça donne pas aussi un petit peu envie de se transformer en ours ?
C'est possible, mais moi, j'ai une autre lecture que je vous soumets, c'est que le héros n'est pas du tout un travailleur, mais un enfant qui va à l'école.
J'y ai pensé aussi.
Bon, vous marrez les cheveux ?
Non, mais moi, ce qui m'a, j'avoue, fait plutôt marrer, c'est que, en fait, tout va mal pour lui, enfin, tout va, et puis c'est quand ça va pas, ça va pas, et quand ça veut pas, ça va pas, et il y a quelque chose de la raison, c'est-à-dire, ça marche pas, tout foire, je me transforme peu à peu en ours, mais j'y vais quand même. Il y a vraiment quelque chose comme ça.
Oui,
hein.
Il y va quand même. Parce qu'on est obligé d'aller à l'école,
moi,
comme on est obligé d'aller au travail.
J'ai trouvé ça drôle un peu. Ah, je trouvais que c'était un peu clownesque.
Oui, c'est très drôle.
Ouais. Ça, j'ai vraiment trouvé ça très clownesque. C'est-à-dire, vraiment, je ne peux pas être encore plus en galère que ce que je ne suis, mais j'y vais quand même. Boum, boum, boum. Et se transforme un peu en Balou. Et voilà, j'ai trouvé que c'était aussi peut-être sourire ou rire de nos aspirations fantasmagoriques à un endroit qui serait un Éden de la nature, où vraiment tout irait bien, on n'aurait pas de travail, il n'y aurait pas la ville. Moi, j'ai un peu ri de moi-même.
Louise Thoré.
Oui, parce qu'en fait, la morale de l'histoire, c'est que pour vivre dans la nature, bah, peut-être qu'il faudrait être un ours, en fait. Les gens, comme nous, enfin les êtres humains, on est relativement adaptés à la ville et au travail. Et puis finalement, quand on décide de partir, il faudrait beaucoup changer. Et j'ajoute, parce qu'il y a un dessin très, 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 très joli où l'ours marche sur le métro aérien, comme ça. Et on le voit s'éloigner dans la nuit avec de très beaux nuages. Et moi, je trouve que c'est des dessins qui font rêver.
J'adore le moment où il s'endort dans sa cour. Il est tellement gros, c'est devenu tellement un ours qu'il peut
plus. Il a hyper chaud. Il faut qu'il dorme dehors, sur un matelas, puis sur les pavés. Joseph Gosse.
Il y a quand même dans le fond quelque chose qui est peut-être un tout petit peu pessimiste. C'est que finalement, c'est un personnage solitaire, mais qui trouve l'amour lorsqu'il devient ours. Et ailleurs que dans l'environnement dans lequel il vit. Donc je ne sais pas si c'est pessimiste ou si c'est simplement une façon de dire vous ne trouverez pas l'amour, en tout cas ce que vous cherchez dans votre quotidien ou dans ce travail. Il y a quand même un truc un peu étrange dans cette fin. Quand même.
On voit bien qu'il y a plein de façons de le lire. C'est la richesse d'un livre comme celui-ci, Les Tracas de Blaise, voilà, de Raphaël Frier et Julien Martinière, à l'atelier du Poisson Soluble. Et puis c'est très très bien ce prix, parce que l'atelier du Poisson Soluble, il a quelques difficultés. Il y a un an ou deux, cet éditeur était vraiment en passe de liquidation. Il y a eu toute une cagnotte et appel à contribution. Donc on lui souhaite de vendre beaucoup d'exemplaires pour que sa trésorerie se porte bien, parce que c'est un beau travail d'édition à suivre. Dans la dispute, il va pleuvoir. Il va pas pleuvoir dans la dispute, hein. C'est le titre d'un livre. Maître chat. Je sais pas qui fera le maître chat. Et puis un coup de cœur de Louise Thoré.
La dispute. France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute littérature jeunesse avec Il va pleuvoir d'Anne Herbots aux éditions Casterman, Anne Herbots belge francophone, signe textes et dessins de cet album, elle qui a suivi les cours de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles en section illustration et bande dessinée, elle préfère dire qu'elle fabrique des livres plutôt qu'elle les écrit. On verra que le choix des mots est toujours très précis pour ce qui la concerne. Déjà 20 ans de publication, beaucoup de volumes. Elle a démarré très, très jeune, 22 ans pour son premier livre publié. De nombreux prix au fil de sa carrière. Il va pleuvoir, va nous faire rencontrer deux jeunes hérissons, un frère et une sœur. n'avait jamais vu de loup. Il ne connaissait que les deux chiens de faïence dans l'entrée, qui ne bougeaient pas. Les grands tournaient dans leurs tasses et la porcelaine teintée. Puis ils buvaient distraitement leur café et parlaient des prévisions du temps. Nour et Nils s'amusaient à se regarder dans le dos des cuillères. Ils imitaient grand-père Basson et Pierre et le loup. Les grands levaient les yeux vers la fenêtre. « Il va pleuvoir », ils disaient. Ils avaient des ombres sous les yeux quand ils disaient cela, et des nuages dans leurs phrases, entre leurs silences. Un point météo tout de suite avec Marie Richeux. Marie Richeux, il va pleuvoir.
J'allais le faire, j'aurais trop aimé le faire.
Ah bon, alors, bon, on rembobine.
Non,
vous qui nous écoutez,
je n'ai rien dit.
Non,
je ne sais pas quel temps il va faire demain, donc je vais pas faire de point météo, mais on peut faire un point livre.
Ah oui, un point livre, Anne Herbots.
Ça fait longtemps que moi j'achète les livres d'Anne Herbots et que je les lis pour moi, et puis que je les lis à des enfants, et puis que je les lis éventuellement à mon enfant. C'est vraiment des très beaux livres, c'est pas un hasard s'il y a un livre sur la couverture du livre de Il va pleuvoir, et en fait c'est vraiment quelqu'un qui depuis très longtemps est intéressé par l'objet livre, qui a une conscience de cet objet-là, conscience que les enfants le prennent dans les mains, que nous, adultes, nous le prenons aussi dans les mains, et c'est pas un hasard si Nour et Nils se trouvent un livre qui raconte des histoires. Bon, donc Nour et Nils sont dans une maison, ils sont avec des grands, on imagine des adultes, il va pleuvoir, ce que disent les adultes, c'est qu'une menace arrive, et très rapidement, on se rend bien compte que c'est pas une menace qui est uniquement météorologique, qu'il y a probablement un orage ou une pluie, mais une menace qui est d'emblée assez abstraite. Et énigmatique, comme souvent les textes d'Anne Herbots. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que ça va être trop lisible, à chaque fois que ça va être trop lisse, à chaque fois qu'il va peut-être y avoir une morale trop claire, elle pète le texte, elle pète l'image, elle cherche de la rugosité. Si bien que c'est pas toujours des livres très simples à s'approprier, y compris même à transmettre aux enfants. Il y a vraiment des livres qui sont calibrés, qui passent tout de suite hyper facilement, et cela, voilà, c'est pas toujours le cas, mais moi je trouve que c'est vraiment ce qui fait leur intérêt. Et finalement, ça fait écho à ce qu'on a dit sur le précédent ouvrage dont on a parlé. C'est l'histoire de Nour et Nils qui vont partir, qui vont quitter l'ennui, qui vont, à la menace de la pluie, à l'attente de la pluie qui rallonge les jours, choisir la rivière, se barrer, n'avoir pas peur, et se retrouver à un endroit où il y aura un flot entre eux et les parents, ou les grands, c'est pas précisé, et être ok avec ça, être heureux d'être parti, et avoir préféré le danger, le déplacement.
Joseph Gosne, premier regard sur Il va pleuvoir.
Un regard d'abord graphique, je trouve le livre vraiment remarquable. J'adore le travail sur les textures, les différentes façons d'attaquer les pages, de les remplir parfois, de laisser du blanc à d'autres moments, avec plusieurs textures, des matières différentes, des collages, et puis toujours cette façon de représenter ces deux personnages qui changent un peu, mais qui rendent toujours tellement attachants. C'est vraiment ce sont deux petites mascottes. La deuxième chose, c'est peut-être que effectivement, on a du mal à se l'approprier ou à le passer. J'ai fait le test,
bah oui,
évidemment, et j'ai pas senti le j'avais l'impression que c'était davantage un livre pour moi que pour ma fille. Donc il y a peut-être cette distance là, mais je pense que graphiquement, il y a quand même quelque chose qui tient et qui permet peut-être aussi d'aller au-delà pour elle, en tout cas.
Premier regard de Louise Touré à présent.
Alors, j'ai pas d'enfants chez moi qui ont l'âge de lire ce livre, mais moi-même, je l'ai trouvé pas si facile d'accès. Il se mérite un petit peu. C'est vrai, le dessin est très très beau, avec des collages. À la fin, il y a des oiseaux qui sont magnifiques, qui m'ont fait penser à Folon, où en fait c'était des hommes qui volaient, mais pas des oiseaux. J'ai vérifié aujourd'hui. Voilà, ça fait toujours rêver. Et puis ce thème de la pluie, du climat, qui est hyper actuel, de la menace On voit très bien de quoi on nous parle. Enfin, chacun verra de quoi on lui parle. Et un texte, en fait, c'est un livre où il y a beaucoup, beaucoup plus de textes que dans tous ceux dont on va parler aujourd'hui, qui est un très joli texte à lire. Moi, je pense que c'est assez agréable de le lire. Il y a beaucoup de vocabulaire. Alors bon, voilà, pour les enfants, il y aura du mystère, mais c'est génial, hein, quand on est petit, de s'approprier des mots compliqués, de les entendre, et les enfants ne demandent pas forcément d'explications. Et moi, je sais qu'en tant que lectrice, donc à l'oral pour des enfants, j'aime bien quand le texte est comme ça, un petit peu qui m'accroche un peu. Alors, je lis pas forcément parfaitement, mais j'ai pas j'ai pas envie de changer. Et puis, je me dis qu'un enfant qui tourne les pages, il va s'inventer une autre histoire. Le thème de la fuite, c'est quand même le gros fantasme enfantin. Et peut-être aussi pour certains adultes. D'ailleurs, c'est un peu ce qui fait Blaise dans le livre précédent.
Oui, c'est ce que je disais, il y a un écho.
La fugue. La fugue, c'est ce dont on rêve parfois, même quand on a des parents très gentils, quand on a 6, 7, 8 ans, peut-être même avant.
Oui, ou peut-être plus tard. Moi, je suis tombé absolument sous le charme de l'écriture de Anne Herbaut. J'avais lu aucun de ses livres, donc j'ai fait un gros rattrapage à faire, et c'est tant mieux pour moi.
Génial.
Bon, mes filles sont beaucoup trop grandes. Quoique, peut-être que justement, c'est le bon âge aussi. Elles vont peut-être être mères un jour. Je leur souhaite. Elles en ont envie, hein. C'est pour ça que je dis ça. On parle de ça avec les plus grandes. Vous verrez. Je trouve absolument, j'avais envie de lire ce passage tout à l'heure parce que je trouve qu'il y a des phrases comme quand ils se parlent entre eux, partir avant la pluie, avant qu'elle nous enferme. Voilà, je trouve ça très, très simple, très beau. L'eau est dure. Enfin, il y a des notations comme ça.
C'est hyper profond, en fait.
Oui, et c'est à la fois un vocabulaire. Alors oui, un petit peu de vocabulaire, mais ce sont des mots le plus souvent usuels. Et je me faisais la même réflexion que vous. C'est-à-dire que peut-être que quand on lit un enfant, on va peut-être pas lire les mots d'Anne Herbaut, ce qui est un peu dommage, mais on va en dire d'autres. On peut raconter la même histoire avec d'autres mots, ou en tout cas le faire en plusieurs temps. Lire d'abord ce magnifique texte, vraiment, moi je suis stupéfait. Et puis, bon, je redis pas ce que vous avez fort bien dit sur la richesse plastique, parce que ces différents registres d'illustration, parce que les deux hérissons qui sont tellement choux, ils sont vraiment à peine croqués dans un mauvais dessin, et alors qu'on voit qu'elle sait absolument faire ce qu'elle veut, Anne Herbaut. Joseph Gosse.
Peut-être revenir sur la composition même du livre. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement le texte est très très fort, mais le texte est toujours sur une seule des doubles pages, et il y a une deuxième lecture du livre, c'est-à-dire on peut ne regarder que les pages simples qui ne sont que des pages d'illustration, et regarder ça quasiment comme un carnet de croquis ou un carnet intime qu'on pourrait effectivement s'approprier peut-être plus facilement et tenter de reproduire. Il y a même des grandes pages qui ont l'air d'être assez simples, mais qui ne sont pas du tout, mais par exemple celle-ci, on voit comme une fenêtre avec la pluie et juste du bleu. Ça donne, il y a quelque chose qui donne envie.
Ouais, ou en taille, franchement, c'est presque écriture rose dans taille.
C'est assez expérimental dans le fond, et donc on a envie de donner ça et dire essayez.
Oui, je veux dire qu'il faut essayer, en effet. Et moi, c'est ça que j'aime avec ce qu'elle propose Anne Herbaut, c'est que elle fait confiance, en fait. Elle a confiance. Elle fait le livre qui lui semble falloir faire. Et bon, moi, si on reparle aussi de littérature et qu'on va du côté des grands, c'est tellement quelque chose que j'aime dans les auteurs qui publient chez les adultes, c'est sentir que quelqu'un a fait le livre dans lequel il a confiance. Et ça fait confiance à tout, à la méditation de l'enfant, au fait qu'on a le temps, qu'un enfant n'a pas besoin d'avoir des choses efficaces, rapides, lisibles, immédiates. Et voilà, mais je trouve que ça, c'est vraiment, c'est salutaire, quoi.
Louise Touré.
C'est vrai que la littérature jeunesse est potentiellement tuée par un désir d'efficacité, voire d'efficacité pédagogique.
Et ça marche tellement, c'est ça qui est terrible.
Le secteur économique qui soutient l'édition.
C'est terrible, ça marche tellement vite, la série efficace. Enfin, je sais pas, moi, des choupis, j'en lis à l'appel, bon.
Oui.
Mais là, donc c'est beaucoup plus ambitieux évidemment que d'autres séries bien connues sur le dessin, avec une proposition pour représenter l'eau de 50 façons différentes. Et bah, moi, je me dis, j'ai bien envie d'essayer de faire ça en fait, de peindre l'eau, parce que c'est très compliqué à faire. Puis avec les enfants, on dessine aussi beaucoup. Alors, ce sont aussi des supports pour réfléchir à comment on pourrait, voilà. Dessiner avec les enfants, faire dessiner ses enfants.
Alors, effectivement, autre conseil de lecture, on peut lire à la suite le tracas de Blaise et il va pleuvoir à ses enfants, pour dire qu'au fond, c'est quand même, il s'agit de la même histoire, c'est comment on quitte son foyer, comment on part et comment on peut être après, là en l'occurrence, heureux.
Oui, comment on quitte aussi une certaine forme de confort et ou d'ennui et de confort entraînant l'ennui. Parce que en fait, ils sont là et ils entendent ces grands dire avec de l'ombre dans les yeux, quelque chose de sombre mais aussi de très résigné, quelque chose nous arrive dessus et on bouge pas. Et en effet, ce que disait Louise Touré, ça peut très bien être la catastrophe climatique face à laquelle on ne bouge pas, mais ça peut être l'ennui, la décrépitude, une sorte de rapport à l'existence qui est petit à petit tué dans l'œuf. Et ce que ça dit, c'est qu'il y a des risques à prendre et que ça vaut le coup de les prendre. C'est-à-dire de décider de pas attendre la pluie, mais de prendre la rivière. Et la pluie va tomber, bon, très bien. Alors prenons le risque d'agir, de quitter son confort, de quitter l'ennui et ou d'agir contre le réchauffement climatique. C'est important, je pense, de dire que le danger du départ ou le danger de la métamorphose ou le danger du changement sans retour est un danger qui paye.
Oui, parce qu'il y a le fantasme de la fugue, on va dire ça, comme le disait Louise Touré tout à l'heure, mais il y a aussi l'inquiétude. Un jour, vous serez plus là, les grands, un jour, je partirai, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?
Il y a aussi quand même une histoire de confiance, c'est-à-dire que tout est construit sur ça, et même la dernière phrase qui est le même
beau.
Ruisseau
coule entre nous. C'est tellement beau.
Tout est là, et c'est vraiment ça qui passe.
Et ce qui rejoint la confiance qu'elle a dans son trait et dans ce qu'elle a proposé, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la fois profond, qui est risqué, et en même temps qui est toujours très calme chez elle.
Oui, c'est intéressant parce qu'il y a une vraie circulation, il y a une circulation entre les vieux, les jeunes, entre les jeunes eux-mêmes, dans le déplacement et aussi dans le sens de la lecture. C'est-à-dire à qui vous le passez, en qui avez-vous confiance et quels sont ces livres que vous refilez aussi.
Mmh.
Et puis il y a quelque chose d'assez original, c'est qu'ils sont deux. C'est pas une histoire solitaire. Ouais. Souvent, on a des héros seuls. Et là, on a une petite équipe, enfin un couple. Hein, on ne sait pas, c'est un frère et une sœur. Et ils font quelque chose ensemble. Alors ça, voilà, ça donne l'idée aussi du jeu, hein, parce que quand on est deux, on s'amuse. Et c'est, même si c'est très poétique, ça garde une dimension ludique. On peut le lire en souriant, ce livre aussi.
Et puis la mise en abîme quand même importante, puisque Nour et Nils lisent Pierre et le loup. Et qu'est-ce qu'ils en tirent comme conclusion ? C'est que quand on crie au loup, on n'y croit pas toujours. Donc il y a quand même cette dimension-là qui est importante aussi.
Bien sûr, exactement, parce que on disait il y a plusieurs échelles et puis il y a aussi leur relation avec la fiction et avec les histoires qu'on se raconte. Mais juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Louise Touré, ils sont deux et c'est en fait en se regardant qu'ils réalisent qu'ils sont en train d'entendre les grands et les vieux dire des choses qui sont de l'ordre de l'immobilité. Et c'est dans le regard, ils se disent, Nour et Nils se regardent, la pluie allonge les jours. Ils entendent différemment les mots dits par les grands. Ils regardent l'eau qui file et danse. Nour et Nils décident de partir avant la pluie, avant qu'elle nous enferme. Et s'ils n'étaient pas deux, peut-être n'auraient-ils pas cette nouvelle écoute qui fait qu'on entend les mots des adultes avec d'autres oreilles.
Dernier mot, Joseph Gosne.
Je trouve leur nom fantastique. La répétition des noms, et ce Nour et Nils, qui sont des noms qui ont l'air d'avoir des origines totalement différentes, et qui d'un coup, mis ensemble, racontent aussi autre chose.
Donc, la lumière, Nour, la lumière, Nils, bien sûr, c'était mon cocker.
Ouais. Pardon ? Vous avez dit Nils ?
C'était mon cocker.
D'accord. Ok, c'est bien ce que j'avais cru entendre. Je n'aurais pas besoin de réécouter le podcast de cette émission. Bon, carton plein pour un Airbots, mais je suis content parce que j'en avais plein à lire d'un Airbots.
Ah, il y en a plein, c'est tellement beau. Hein. Franchement, on peut parler de Brouty. Brouty a perdu son chat et tout le monde dit qu'il s'en fout. Il va voir tout le monde, j'ai perdu mon chat. Puis un jour, tout le monde lui dit, mais il y a pire, il y a plus grave. Enfin, t'as perdu ton chat, c'est une Brouty. Puis il rencontre un chien. Il lui dit, papa, moi ton chat, on va en faire une histoire.
Là, l'histoire, c'était « Il va pleuvoir » d'Anne Herbots aux éditions Casterman. C'est le moment du coup de cœur de Louise Touré pour « À travers » de Tom Ogomat aux éditions Thierry Magnier. De quoi s'agit-il, Louise ?
Alors c'est un livre très graphique et c'est en voyant cette couverture, cette si belle couverture bleue que mon regard a été attiré. C'est Mathilde Wagman avec qui je travaille, on est dans le même bureau.
Il fait aussi quelques disputes, Mathilde.
Oui, je sais.
On s'est maintenant.
Et elle a fait Mathilde. Et on pense à vous. Et elle a fait une.
Elle ne vous écoute pas, elle est en route pour la fête de France Culture ce soir.
Une nuit sur la littérature jeunesse. Bon bref, ce livre était là et il me tendait les bras. J'avais très envie de l'ouvrir et effectivement, c'est très 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 beau. Alors Tom Ogomat, j'ai appris que c'était un graphiste extrêmement prometteur. D'ailleurs, le livre est sélectionné à Angoulême, mais c'est pas du tout une bande dessinée. C'est vraiment un livre de dessin. Alors l'histoire, enfin s'il y a une histoire, on comprend qu'il y a une histoire, se comprend à travers les légendes de ces dessins qui sont juste des dates et des lieux. Donc on va raconter la vie d'un personnage du berceau à la tombe. Ce personnage va devenir astronaute. Et ce personnage, on va le voir regarder. Donc sur la page de gauche, on voit un personnage qui regarde quelque chose. En général, le protagoniste principal. Enfin, il y a si peu de texte, je ne sais pas si on peut utiliser ces mots-là. Et sur la page de droite, on voit ce qu'il voit à travers une fenêtre, à travers des jumelles, à travers le hublot de son vaisseau spatial. Déjà, ça, c'est une idée, mais hyper belle. Mais vraiment, alors moi, je trouve... Parce qu'en fait, c'est la condition de l'homme moderne que de voir à travers. J'imagine qu'au début de l'humanité, on voyait, tout simplement. Puis un jour, on s'est mis à voir à travers. Et puis, quand je dis que le dessin est très beau, alors je vais tenter de le décrire. Il y a beaucoup de bleu, une sorte de bleu canard. C'est moche, bleu canard comme nom, mais c'est une très belle couleur.
C'est une très belle couleur.
Voilà, avec qui répond à du rouge dans la plupart des dessins qui ont des tailles très variables. Il n'y a pas de ligne, hein, de délimitation, c'est vraiment des aplats de couleurs comme ça, donc ça joue beaucoup sur l'effet coloré. Les personnages n'ont pas de visage, ils sont esquissés, donc on va les imaginer aussi comme on veut. Ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire et au rêve, parce que la conquête spatiale, évidemment, c'est quelque chose déjà qui fait rêver le personnage, puis qui nous fait rêver nous. Et alors les images, enfin les dessins de l'espace et tout, c'est absolument, moi je trouve ça sublime. On a envie d'avoir une affiche de Tom Ogomat chez soi. Et puis cette histoire de regard, c'est marrant parce que je l'ai fait lire à ma stagiaire de troisième. Il y a 300 stagiaires de troisième, il faut savoir, dans la maison de la radio.
Elle
a beaucoup aimé, mais elle a pas spécialement remarqué. Donc on n'est pas obligé de le lire avec un œil comme ça, en se disant mais qu'est-ce que raconte-t-il et tout. On peut vraiment juste profiter du dessin, des paysages, de l'idée que on peut comme ça se raconter à travers les dates de nos vies qui sont de la découverte et de l'émerveillement et qui pourraient se résumer par qu'est-ce qu'on a vu d'important à ce moment-là, la première fois où j'ai regardé dans un télescope, une vocation, la première fois où j'ai vu mon fils, etc. Enfin, voilà, c'est comme ça que c'est raconté. Je ne sais pas si je l'ai bien raconté.
En fait, c'est vrai que la couverture est trouvée sous la forme de jumelles et qu'on voit à travers la couverture. Et ça commence comme ça, mais à voir comme ça les quelques images que vous nous montrez depuis votre côté de la table, Louis Thoré, moi, ça me fait quand même penser à pas mal de peintres français, plutôt des années 70, de Monory ou votre ami Gérard Fromanger. Vous avez fait une magnifique masterclass,
Marie. Mais on n'est pas amis avec tous Gérard Fromanger.
Non, mais lui, par contre, il était amoureux de vous, lui, par
avec
contre.
Avec les personnages, ça fait un peu Fromanger.
Justement, je crois que vous étiez très enceinte à ce moment-là, il était fasciné par vous.
On salue Gérard Fromanger, toutes nos amitiés.
Non, mais vous voyez, vous avez
en tout cas, la page que vous venez d'ouvrir,
je l'ai retrouvée très vite
avec caractère révolutionnaire.
Il y a une influence quand même, semble assez forte, de figuration.
C'est chez Thierry Magnier, il faut dire, parce que c'est souvent beau chez Thierry Magnier.
Oui. J'ai déjà dit, mais j'allais le redire, vous savez, parce que je donne toujours le nom des éditeurs, des traducteurs, quand il y en a. Ce soir, il n'y a pas de traducteur, donc je ne donne pas, mais vous savez l'importance qu'on y attache, évidemment, à travers. On a envie d'aller voir à travers le livre de Tom Ogomat chez Thierry.
C'est vrai que cette double page, c'est vraiment Gérard Fromanger. C'est fou,
beau, avec tout ce rouge.
Ces drapeaux et tout, ouais.
Il y a aussi une influence de Richard Maguire, un peu quand même.
Oui, sur le dispositif.
Sur le dispositif, et même dans certains dessins de Maguire qui sont beaucoup plus géométriques.
Maguire avec le plus grand livre d'illustration au monde, ici.
Oui, ici.
Ça, c'est vraiment.
C'est un.
On le reglisse.
C'est vrai que ça
fait
énormément penser. Et un peu de Hopper, je suis seule à aller voir Hopper ?
Oui. En effet, mais vous avez la vue qui baisse, c'est tout, c'est l'âge, Marie-Richeux.
Il y a un tout petit peu de loin,
Hopper sous extasie, mais je ne crois pas qu'il en ait de loin. Bon, on a dit beaucoup de choses sur À travers, mais il nous reste un livre à notre programme, À travers de Tom Ogomat, aux éditions Thierry Magnier.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Et le dernier livre au sommaire de cette dispute spéciale ce soir, littérature jeunesse, c'est Maître Chat de Blex Bolex chez Albin Michel Jeunesse. On a déjà plusieurs fois parlé de Blex Bollex dans la dispute, dernièrement encore avec le très beau Nos Vacances, qui avait d'ailleurs reçu la Pépite d'Or 2017 à Montreuil, diplômé des Beaux-Arts d'Angoulême. Il est auteur, illustrateur et également éditeur chez Cornelius, très bonne maison. Il participe aussi à Ferraille. Il a travaillé de 2006 à 2013 à une série d'Imagier. Il y a eu d'abord L'Imagier des gens, puis Saison, Romance. Enfin, Blex Bollex a vraiment tous les talents. Le prouve, à mon sens, à nouveau ici, avec en faisant d'un chat beauté de rouge une créature assez peu plaisante. Et puis un lapin stupide comme complice, il va y avoir comme un léger chaos. Joseph Gosne, vous parlez d'abord de Maître Chat de Blex Bollex.
Tout à fait. Moi, j'ai un faible pour Blex Bollex depuis longtemps. Vous avez un peu résumé son parcours. Il faut rajouter qu'il a été sérigraphe, c'est-à-dire que c'est lui qui faisait notamment toutes les sérigraphies des couvertures des premiers livres des éditions Cornelius. Donc il s'est d'ailleurs même un peu abîmé la santé, les poumons avec les gaz des sérigraphies. Mais il a un vrai passé, un art de l'aplat et de la couleur qu'on retrouve beaucoup dans tout son travail. Il y a aussi une évolution très très forte de son travail puisqu'il a commencé en faisant des fanzines et des gravezines très punk avec un trait comme ça très très jeté, mais dans lequel il y avait toujours quelque chose d'un peu d'un peu canaille, et qui a toujours traversé tout ce qu'il a fait et qu'on retrouve beaucoup là dans ce personnage de chat qui là aussi est en fuite.
Il est foutu dehors par la fenêtre,
mais vous savez bien les chats reviennent toujours, mais là il ne revient pas. Et il y a effectivement ce compagnonnage avec ce lapin, et le livre est assez rapide. Ça se lit très vite, très bien. La fin est assez drôle. Moi j'aime beaucoup ça, mais ce qui est vraiment moi ce que je trouve fou chez Blex Bollex, j'ai presque dire chez Blex, c'est l'invention graphique, c'est-à-dire comment à chaque page avec des choses qui ont l'air très simples, extrêmement posées, presque figées, il parvient à raconter à chaque fois une histoire dans chaque case, dans chaque page, même quand les personnages ne sont souvent que de profil, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose. Effectivement, ça passe toujours par la disposition quasiment mathématique de chaque élément de la page, la façon de poser les couleurs, la façon aussi de poser les proportions avec ces personnages. Là, j'en ai un devant moi, ce personnage très gros, le chat qui est petit mais qui est quand même plus gros que le lapin. Il y a toujours un travail sur les proportions et sur l'œil en fait, et sur la façon de tromper le regard des autres qui moi à chaque fois me bluffe chez lui. Et je trouve que son trait et sa façon de composer avec les couleurs, etc., est de plus en plus forte et belle. Et je trouve, par exemple, bon, Nos Vacances, c'était vraiment mon livre préféré l'année dernière. Là, c'est tout aussi beau, avec quelque chose d'encore plus léger. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Nos Vacances avait quand même quelque chose d'assez lourd, évidemment. Là, on est vraiment dans le petit récit, le conte, etc. Ça aurait quasiment pu être un fanzine jeté, mais ça a vraiment une immense force pour moi. Je termine juste. Ouais. Effectivement, j'ai aussi fait le test avec ma fille. Elle a pris le livre et elle a lu très vite et elle m'a dit ah, je crois que c'est son préféré de tout ce qu'elle a vu. Parce qu'il y a quelque chose d'immédiat, d'immédiat chez Blex. C'est presque pop.
Presque pop. Louise Touré avec Blex Bollex.
Il est rigolo ce livre. On rit en le lisant parce qu'il fait des bêtises le chat et il sait pas trop pourquoi. Enfin lui-même il est agi comme voilà. Les animaux représentent souvent les enfants, donc on est agi par une force mystérieuse et on fait des bêtises quand on est petit. Pas tous les enfants mais beaucoup. Moi ce que j'adore dans ces dessins c'est qu'il y a effectivement plein de choses à regarder. Il y a un jeu des matières et des textures. Alors, il va représenter les briques d'une maison, mais aussi la texture du sac dans lequel ils ont enfermé un personnage. Alors, c'est quand j'étais petite, je regardais ça, mais pendant vraiment très longtemps, le velours du pantalon, voilà. Plein de détails. Et puis, l'idée, alors là, pour le coup, on est en ville, l'idée qu'on va s'amuser partout. Alors, on va faire des bêtises, on va aller dans le terrain vague. Et bon, voilà. C'est un livre qui raconte ce que c'est que de s'amuser, d'une certaine manière, en liberté. Moi, je crois que cette liberté et cette autonomie, on en a tous envie. Quand on est enfant, je crois qu'on en a très, très envie. Elle est tournée dans quelque chose de... Et en plus, il n'y a pas de... Enfin, il y a des conséquences, en fait, mais rien n'est grave. C'est bien. C'est... Non, parce qu'on parlait de Tchoupi tout à l'heure.
Pas tout à fait d'accord, Marie-Riche, visiblement.
Il passe sa vie à prendre
des N'énervez pas leçons. Marie en parlant de Tchoupi, s'il vous plaît.
Des leçons. Non, mais il y a beaucoup de petites morales comme ça. Là aussi, il y a quelque chose qui se passe et tout ça. Mais je ne sais pas, c'est traité avec tellement d'humour que pour moi, il y a une forme de légèreté et qui m'a beaucoup plu.
Petit supplément, Joseph Gost, avant de donner la parole à Marie-Riche.
Juste le replacer aussi, peut-être, dans certaines influences. C'est-à-dire que moi, je vois à la fois du Quick et Fluke de d'Hergé, évidemment, mais aussi du jeune Albert de Chaland, avec ce côté, effectivement, très bêtise urbaine, dans des terrains vagues. C'est le même personnage que chez Hergé et que Chaland avait repris après.
Marie-Riche, alors, morale, pas morale
Non, mais à la fin, quand je dis, c'était juste que je réagissais à au fait que ce soit sans conséquence. En fait, quand même, à la fin, c'est un peu fini la liberté. On a beaucoup parlé de ça. Non,
je sais pas. Il va s'échapper de nouveau.
Je crois que le crime paye.
Il est un peu plan-plan. Il se retrouve dans une maison.
Il est au chaud, nourri.
Il est au chaud. Moi, j'ai beaucoup pensé à La Fontaine. J'ai beaucoup pensé aux chiens et aux loups. Et évidemment, au fait d'avoir un maître, de ne pas en avoir, etc. Alors moi, plusieurs choses. J'ai beaucoup aimé le caractère légèrement vintage et cette composition de la page très régulière, trois quarts d'image, un quart de texte. C'est vraiment une sorte de régularité et de sagesse dans la composition qui va à l'encontre du bazar qu'ils foutent tous les deux dans la ville. J'ai aimé qu'il soit ce chat noir un peu méchant gratuitement quand il y a une petite fille qui arrive qui s'appelle Edoli. Il essaie de la manipuler. Il est pas sympa et il est drôle. On l'aime bien pour ça. J'ai adoré ce moment de bagarre et qui est sous-titré en italique. La scène qui suit est d'une rare brutalité et nous y jetons un voile pudique. Nous désapprouvons ce genre de comportement avec la plus grande fermeté. C'est un bien triste spectacle auquel se livrer dont personne ne sort jamais grandi. Et ça, c'est drôle parce que tout le monde se marre. L'enfant se marre, l'adulte se marre. On peut se marrer ensemble en se disant « T'as vu, c'est pas bien la bagarre, mais c'est quand même drôle d'en rire quand il en existe dans les livres. » Et je trouve que ça induit encore une fois une distance qui est salutaire, qui est agréable. Et puis, pour revenir un tout petit peu sur La Fontaine, je disais tout à l'heure que moi, j'aimais beaucoup ces livres, quand on parlait du tracas de Blaise, qui renvoyait vers d'autres livres. Et bien là, de pouvoir éventuellement aller lire une fable de La Fontaine ou d'autres histoires de fugues, de gamins dans la ville qui font des bêtises sur les terrains vagues, ça me plaît, quoi. Ça me plaît de refermer un livre et de dire, on va tout de suite lire autre chose.
Alors, c'est vrai que sur la dimension vintage, moi, ce que j'aime, c'est que le livre en lui-même est un piège, parce que ça a l'air d'être un livre inoffensif, ça a l'air d'être un vieux Tchoupi, quoi. Un truc.
C'est
le running gag de ce soir. La couverture cartonnée, le petit format, enfin vraiment. C'est certainement que. C'est quoi la couverture hein? C'est Maître Chat, voilà. Mais voilà, il y a une petite fille qui joue dans la herbe, ça a l'air super tout ça. Sauf qu'il tient un sac à la main, que va-t-il faire avec ce sac? Mais voilà, on le sait trop tard, quand on a acheté le livre, on s'est fait avoir, on est face à un personnage aussi sympathique que un peu malfaisant. Le lapin crétin, un vrai lapin crétin, c'est là-dedans qu'on le trouve. Et effectivement... le crime pays, ce qui est quand même une forme d'amoralité qui est quand même assez réjouissante.
Parce qu'ils vont voler hein, dans une petite boutique.
Bah oui, ils vont voler et puis finalement, par un malentendu, ce vilain chat sera choyé. Ah ça, c'était pas facile à dire.
Ah non, c'est
j'aurais dû la préparer,
un test de micro, le vilain chat sera choyé.
Voilà, on l'a tous les deux passé.
Voilà,
métamorphose, Joseph.
C'est la métamorphose de la fin.
Le chat noir n'est plus noir.
Amène-moi un peu de farine pour que puisse continuer de changer ma couleur.
Et il aime bien ça. Il aime bien ça. Donc ça, c'est assez. Et il perd sa casquette. Ouais. Parce que avant, jusque-là, il avait ce côté apache, évidemment.
Bien sûr.
Et là, d'un coup, il a l'air pas mal dans sa nouvelle peau blanche, dans ce nouveau foyer.
Non, mais peut-être que je me trompe en pensant qu'il va se ranger et qu'en fait, il a une vie
plus lente. Non, c'est une arnaque qui marche.
C'est une arnaque, c'est un arnaqueur et ça continue.
Il se fait jeter d'une maison, il en trouve une autre et tout va bien, quoi.
Jusqu'à ce qu'il se fasse jeter.
Jusqu'à ce qu'il se fasse jeter, qu'il redevienne. Qui est plus de farine, quoi.
Ouais. Louis Storey.
J'adore l'idée de mettre des bottes et une casquette et puis d'aller faire des bêtises. Ça me rappelle des trucs. Et j'adore aussi l'idée que la petite fille s'appelle Edoli.
Ah ouais.
Et c'est tellement un drôle. Truc d'enfant de déformer les prénoms. Et il y a des gens comme ça qu'on a appelé par un mauvais prénom toute son enfance parce qu'on a confondu des lettres. Et aussi cette réplique que j'adore. Tu as tout compris. Enfin, non, ne réfléchis pas trop quand même. Ça donne mal à la tête.
Me fait mal à la tête.
Ça donne mal à la tête. Non, il dit au lapin.
J'ai inventé, tiens. J'ai cru que ça lui donnait mal à la tête à lui que l'autre réfléchisse. Donc ça m'a fait encore plus rire, juste parce que j'avais mal lu, en fait, vous voyez. C'est Maître Chat de Blexbolex chez Albin Michel Jeunesse. Vous avez compris que c'était un piège qu'il fallait absolument tendre à tous les parents et tous les enfants. Mais comme je vois qu'on s'approche quand même bientôt de la fin de l'émission et que nous avons une vocation de service public renouvelée chaque soir, chaque semaine dans nos émissions respectives, je voudrais savoir. Quel conseil de lecture donner aux parents? Mais je voudrais savoir, en fait, parce que je suis juste curieux de savoir quel parent lecteur vous êtes. Vous lisez beaucoup? Quelle fréquence? De quelle façon? Allez, un petit tour de table là-dessus. Marie Richemont.
Moi, je lis tout le temps depuis qu'elle est née.
Tout le temps?
Tout le temps.
D'accord, c'est vous vraiment... la saoulez tout le temps?
Non, mais en fait, je la saoule et en fait, elle est aussi.
Mais il y a le rituel.
Alors nous, on est un peu sans rituel. Très J'avoue, bien. Je me fais un peu avoir au rituel du soir avant le coucher, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir un, deux, trois, quatre, à un moment donné je dis stop. Mais sinon, il y a des livres partout, tout le temps, et je pense qu'elle a déjà lu plus de livres que je n'en avais lu à 20 ans. Et non, vraiment, j'essaie de lire le plus possible, plein de trucs différents, j'achète plein de livres dans les vides-greniers, où on en emprunte à la bibliothèque, etc. Moi, le conseil que j'ai, c'est que c'est un moment de relation, en fait. Avant de devenir un endroit de relation avec soi-même et son propre monde intérieur, c'est un moment de relation avec le monde d'un auteur ou d'une autrice ou des illustrateurs, illustratrices et entre les enfants, les enfants, les adultes, je trouve ça merveilleux. Et en fait, ça se sent déjà là, on parle d'un enfant qui ne parle pas encore énormément. Et ben, c'est déjà un moment de relation. Ouais. C'est super, moi j'adore.
Louis Storey, lectrice compulsive.
Avec les enfants, moi j'ai enfanté une lectrice compulsive, c'est quelqu'un qui lit énormément, ma fille aînée, mais c'est très spécial, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres à la maison pour le travail, pour le plaisir, on a lu beaucoup ensemble, beaucoup, beaucoup, et on peut commencer très petit. On peut aussi raconter des histoires qu'on a dans la tête, hein, mais c'est vrai que l'objet livre, voilà, il était là, on travaille à France Culture, c'est comme ça, et alors moi j'ai un enfant qui lit trop. Et c'est très marrant, parce que il y a plein d'autres cas comme ça dans la famille, je sais pas s'il y a un atavisme, ça isole un petit peu la lecture. Et puis, après, maintenant, comme elle a 11 ans, ma fille aînée, elle me raconte ce qu'elle lit. Donc, 50 000 versions différentes de la mythologie grecque, hein, Percy Jackson, tout ça, ça marche beaucoup chez les enfants. Et en tout cas, la lecture, c'est une activité qui, à la fois, procure du calme et du plaisir. C'est un support génial pour jouer, parce que, voilà. Après, elle joue, elle s'invente des histoires en s'inspirant de celles qu'elle a lues. Et ça démultiplie le plaisir à l'infini qui est celui de la fiction.
Ils choisissent de quoi ils ont besoin. Ça, c'est vraiment incroyable. Parce que même quand on a quelques mois, on peut déjà choisir dans un livre ce qui nous fait plaisir ou ce dont on a besoin, le nom à un certain moment. Je pourrais en parler trop longtemps.
Non, mais c'est bien, Joseph Gosselin, alors quel lecteur êtes-vous? Donc là, on a compris que vous avez testé ce soir.
J'ai testé.
Les trois livres.
J'ai testé. Alors, quel lecteur, quelle lectrice sont mes filles? Mes filles ont longtemps eu un rituel avec leur mère de lecture du soir, qu'elles ont un peu abandonné parce qu'elles lisent maintenant un peu seules. Et j'ai un rituel avec elles qui est assez régulier où on va en librairie, et notamment avec la grande, et on choisit des livres, elles choisissent, et parfois elle est un peu perdue, elle sait pas quoi prendre. Donc on a des petits jeux, et puis je lui mets un livre entre les mains, elle dit ah pourquoi pas. Donc elle rentre, elle se dit non mais si j'aime pas, et puis finalement elle aime bien. Et elle lit beaucoup. En fait les deux lisent beaucoup, elles lisent, en fait, et c'est beaucoup passé au roman pour la grande, qui a 9 ans.
Dernier mot, Louis Storey.
Aller à la bibliothèque, ça permet de tester plein de choses. On peut emprunter souvent 5, 6, 7 livres. Comme ça, on voit si ça nous plaît ou pas. Et on peut y passer du temps. On peut même y laisser ses enfants quand ils sont un peu plus grands. C'est pas mal.
Ouais, c'est bien aussi. Moi,
je regrette juste qu'elles ne lisent pas Tintin.
Bon.
Aller en librairie aussi.
Ça viendra. Oui,
un peu des deux.
Bibliothèque,
quoi.
Les deux. Ouais.
Lisez des livres à vos
enfants. J'étais heureux de vous avoir de façon très exceptionnelle, Marie Richeux et Louise Touré, d'avoir joué le jeu, Joseph Gauss, que j'ai le plaisir
Quelle
de voir
géniale,
plus souvent. Oui. Mais voilà, c'est toujours une idée originale de Louise Touré.
Merci.
Ah oui, mais c'est une. On va refaire le jingle avec Marie Rich. Mais moi, j'ai un rituel chaque soir. Sarah Dion vient me lire des questions.
Mais à moi aussi, figurez-vous, elle me les lit aussi par le poste.
Ben oui. Sarah, le jeu de la dispute, la question d'hier et sa réponse d'abord.
La question était aux côtés de quel autre artiste Jean-Michel Basquiat est-il actuellement exposé à la Fondation Louis Vuitton? Et la réponse est Egon Schiele.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Transmission Transgression. C'est jusqu'au 3 février au Musée Bourdelle à Paris. Quelle est la question?
À quel sculpteur qui a figuré parmi les élèves de Bourdelle doit-on le baiser?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Demain, 19h, en public, au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio pour une dispute consacrée au cinéma. Je serai avec Lucine Como, Charlotte Garçon et Julien Gester. Nous parlerons de Une affaire de famille, de Kore-eda Hirokazu, de Maya, de Nielsen Love. Je, pour une fois, donnerai mon coup de cœur. C'est pour le coffret Nourri, Bilge et Jenan. Et puis, il y aura un petit salon de Lucille Como consacré à la prolixité de Hong Sang-soo.